ce matin encore, tu nous donnes le souffle de vie. Merci pour ces trois jours merveilleux. Nous avons vu encore ta main agir avec toute une multitude de guérisons diverses et variées. Nous voulons te dire merci. Ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est le Seigneur qui l'a fait. C'est Dieu qui a fait ces choses. Et tu as fait ces choses par amour pour ton peuple, par amour pour tes enfants, Père. Nous voulons te dire merci. Nous voulons nous aussi, Père, aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toutes nos forces et de toutes nos pensées. Nous en tant qu'individus, mais aussi, Père, en tant que famille spirituelle. À quoi bon vivre une vie, Père, qui ne t'honore pas et qui ne te glorifie pas, qui ne réjouit pas ton cœur? Accorde-nous la grâce, Père, de vivre une vie qui t'honore, une vie qui agrée ton cœur, une vie d'amour et de passion, une vie de reconnaissance et de célébration. Merci, Père. Merci, Père. Aimons le Seigneur. Aimons le Seigneur de tous nos cœurs. Aimons le Seigneur de toutes nos âmes. Aimons le Seigneur. Seigneur de toutes nos forces, de tous nos cœurs, de toutes nos âmes, de toutes nos forces. Aimons le Seigneur, famille ICC. Aimons le Seigneur de tout mon, de tous nos cœurs. Aimons le Seigneur. C'est le premier et le plus grand de tous les commandements. Aimons le Seigneur.
Aimons le Seigneur
de toutes nos forces, de tous nos cœurs, de toutes nos âmes, de toutes nos familles. C'est aimons le Seigneur de tous nos
cœurs.
Aimons, obéissons à sa parole. Aimons
le Seigneur,
car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas bénis. Voilà pourquoi, Père, aimons le Seigneur. Aimons le Seigneur. Nous sommes menés pour le chérir et l'aimer.
De toutes nos âmes.
Aimons le Seigneur de toutes nos forces. De tous nos cœurs.
De tous nos cœurs.
Je veux dire au Seigneur, j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur de tout mon cœur.
C'est une déclaration d'amour et de foi.
C'est une supplication
de tout mon âme.
Car je suis né pour t'aimer.
J'aime le Seigneur
de toutes mes forces, de toutes mes forces,
de tout mon cœur,
de toute mon âme,
de toutes mes forces.
J'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur
de tout mon cœur.
Je veux te le dire avec les expressions de mon cœur sincère, mon cœur disposé. Je suis né pour te chérir,
j'aime le Seigneur de toutes mes forces.
J'aime le Seigneur
de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces.
Une dernière fois,
j'aime le Seigneur de tout mon cœur.
C'est une déclaration de foi, c'est une attitude de reconnaissance, une expression d'amour pour retourner à donner à notre Père et au Saint-Esprit. Saint-Esprit,
j'aime
à Jésus-Christ,
à notre Père,
de toutes mes forces,
de tout mon cœur, de toute mon âme,
tendre Père,
tendre
Père,
Père, je t'aime.
Je veux le dire ce matin
pour tout ce que tu es.
Père, je t'aime. Reçois l'expression de mon adoration, ma dévotion, mon allégeance, ma passion. Tendre Père, je t'aime.
Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes
forces.
Je t'aime,
tendre Père de grâce,
aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces.
Père, je t'aime, pour tout ce que tu es, Père, je t'aime. Tout ce que tu as toujours été, Père, je t'aime. Je veux le dire, aide-moi à t'aimer. Aide-moi à t'aimer. Aide-moi à t'aimer. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Père, aide-moi à t'aimer. Aide-moi à t'aimer. Aide-moi à t'aimer. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Je veux chanter un chant d'amour ce matin.
Je veux chanter un chant d'amour.
C'est à toi que je pense, c'est vers toi que mes pensées se dirigent.
Pour
toi mon sauveur, mon époux, mon bien-aimé.
Pour toi Jésus.
Je veux chanter un chant d'amour et de gratitude. Un chant d'adoration. Un chant d'amour et de supplication. Je veux chanter ce matin
pour toi Jésus.
Je veux chanter un chant d'amour.
Je veux chanter un chant d'amour.
Je veux chanter un chant d'amour. Je veux dire mon attachement à Dieu. Je veux dire ma passion pour Dieu. Je veux chanter un chant d'amour.
Je veux chanter un chant d'amour.
Je veux chanter, que puis-je donner à Dieu? C'est toi qui m'as aimé le premier.
Pour toi Jésus,
je suis heureux, je suis heureux.
Tu m'as donné ton nom.
M'a donné ton nom,
je ne veux pas être.
Je suis heureux de ta présence ce matin.
Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom.
Tu m'as donné tout ce que tu avais de meilleur.
Je ne veux pas être.
Je suis heureux.
Je suis heureux.
Je suis heureux.
suis heureux.
Saint-Esprit de Dieu, connaissant,
je ne veux pas être ailleurs.
Je suis heureux,
je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs
que dans tes bras. Élève-moi de vœux. C'est là ma place, ma maison préférée. C'est là que je suis né, c'est là que j'aspire à demeurer. Dans tes bras, Père,
dans tes bras,
mon époux, mon bien-aimé, dans les bras de mon Père, dans les bras de mon époux, mon bien-aimé Jésus, dans les bras de mon ami, de ma plus belle rencontre, dans les bras de celui que mon cœur aime. Dans les bras d'amour, dans tes bras de paix, dans les bras de mon rocher, ma forteresse, dans les bras de mon protecteur, dans les bras de mon héros, dans les bras de mon bien-aimé, je demeure. C'est là ma position, c'est là ma demeure, c'est là ma place préférée, c'est là ma demeure. Là que j'aspire à être encore, encore et encore, dans tes bras. Je veux te chérir dans tes bras, dans tes bras, dans tes bras. Je te chéris, Père éternel,
dans tes bras,
dans tes bras d'amour. Si la main demeure dans tes bras. C'est là ma place préférée, dans tes bras
d'amour,
tout près de toi,
contre ton cœur,
tout près de toi,
tout près de toi, contre ton cœur,
tout près de toi,
tout près de toi.
Dans tes bras d'amour, c'est là ma place préférée, c'est ma maison préférée, c'est là mon lieu privilégié, c'est là que mon cœur est restauré, c'est là que ma vie est transformée, c'est là que je suis redoutable et fort, c'est là que je suis renouvelé. C'est là que je suis équipé, c'est là que je suis renouvelé, c'est là que je suis transformé, c'est là que je suis fortifié, c'est là que je suis fortifié, c'est là ma demeure, oh Père, c'est là que je suis restauré dans Oh, y a-t-il quelqu'un pour acclamer le Père, pour acclamer le Fils et le Saint-Esprit de Dieu? Nous te remercions ce matin. Magnifique berger de mon âme, je te chéris, mon trésor, et je t'aime, mon Père, né pour te faire plaisir. Oh, dans tes bras d'amour, je te remercie. Tu es ma bannière et ma passion. Tu es ma vitalité, mon harmonie. Nous t'aimons, nous n'avons pas honte de le dire ce matin. Merci, tendre Père. Merci, Saint-Esprit. Nous te remercions, nous te remercions, nous te remercions, nous t'adorons. Tendre Père, je t'adore. Je te donne ma vie. Tendre Père, je veux te le dire avec un cœur disposé. Je veux te le dire, tendre Père, tendre. Toi qui m'as aimé le premier, je veux te redonner l'amour que tu m'as donné. Je te donne ma vie. Je veux te le dire avec mon cœur sincère, avec un cœur qui soupire. Jésus-Christ, Jésus. Tu es mon sauveur, tu es mon bien-aimé, mon époux, tu es mon sauveur. Je te donne ma vie. Je veux te dire, encore et à jamais, Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit. Seigneur de l'Église, mon ami, mon partenaire, mon associé, le Dieu en moi, Christ à l'intérieur de moi, je me livre à toi, je veux te dire que je veux t'aimer, que je t'aime encore et encore, Saint-Esprit, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie. Je veux te dire, c'est une prière. J'aspire, je t'aime tant. Je veux t'aimer tous les jours de ma vie, ô Père. J'aspire à t'aimer et je désire t'aimer. Je ne demande qu'à t'aimer, à te faire plaisir. Je t'aime tant, tu es ma passion, ma vitalité, tu es mon équilibre. Je t'aime tant et je veux te dire que je suis né pour te faire plaisir. Je t'aime tant, je te chéris et je te révèle. Je t'honore ce matin, Saint-Esprit de Dieu, tendre Jésus-Christ, tendre Père de Dieu, je t'aime tant. Je veux te le dire, je t'aime, je t'aime. Y a-t-il quelqu'un qui a envie d'acclamer le berger de nos âmes? Y a-t-il quelqu'un avec moi qui a envie d'acclamer en l'honneur de Jésus-Christ, en l'honneur de notre Père, en l'honneur du Saint-Esprit de Dieu, du Dieu trois fois saint, te remercions. Nous voulons te dire merci ce matin. Te prions de nous fortifier, de nous renouveler ce matin par ta grâce. De fortifier nos corps par ta grâce. De renouveler nos âmes par ta grâce. De vivifier notre esprit par ta grâce. Nous voulons te dire combien tu es précieux. En réalité, je ne sais pas ce qu'il convient de dire. Tout ce que je veux dire, c'est tu es tout ce dont j'ai besoin. Tu es ma passion. Mon obsession, ma poursuite, mon ambition. Je n'ai pas honte de te dire publiquement et en privé combien je t'aime, combien je veux te chérir, combien je suis né pour te faire plaisir, combien en réalité tout ce que je demande c'est la grâce de te faire plaisir. Je n'ai aucune motivation ou aspiration si ce n'est celle de réjouir le cœur du Père que tu es, le cœur de l'époux que tu es, le cœur de l'ami que tu es, cher Saint-Esprit. Mon Dieu et mon Père, mon Dieu et mon époux, mon Dieu et mon ami, mon associé, mon partenaire à travers le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus. Dieu trois fois saint, nous te reconnaissons, nous t'aimons, nous t'honorons. Nous avons besoin de toi. Comme une biche soupire après les eaux, nos âmes soupirent après toi. De la même manière que tu nous donnes de respirer l'oxygène, l'air que nous respirons, donne-nous de te faire plaisir, donne-nous de te chérir, donne-nous de t'aimer avec une passion saine et authentique, vibrante, énergisante, dynamique. Fais de nous des flammes de feu de notre génération. Fais de nous des instruments par lesquels l'amour de Dieu est manifesté. Nous te remercions, nous te chérissons, nous t'aimons. Nous sommes reconnaissants. Ce matin, inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs, excellent Père de grâce et d'amour. Ne donne pas gloire à un pasteur, à un homme, à une église, non jamais, mais donne toujours uniquement gloire à ton nom, en sorte que ce ne soit pas les hommes qui reçoivent les applaudissements, les acclamations, mais que ce soit du soleil levant jusqu'à son couchant, le nom de notre Père, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et le Saint-Esprit reçoit tout honneur, toute louange, gloire, splendeur, magnificence, éclat, souveraineté, domination, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous te prions, nous te remercions. Parle à nos cœurs ce matin. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen et Amen dans sa présence. Dis-moi Amen ce matin. Non, je n'ai pas entendu. Quelqu'un me dit Amen. Il est bon de demeurer dans la présence de notre Père. Un jour dans ses parvis vaut mieux que mille ailleurs. C'est dans sa présence que tu es renouvelé, requinqué, regaillardi, vivifié, fortifié, restauré, guéri. C'est dans sa présence que les bonnes choses ont lieu. Et c'est hors de sa présence que toutes les mauvaises choses se produisent. Que Dieu nous fasse la grâce d'aimer sa présence, d'aimer sa personne. Merci, excellent Père de grâce et d'amour. Inspire-nous. Fais-nous grâce encore pour ce deuxième culte. In Jesus' name, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit Amen. Venez vous asseoir dans sa présence. Comme disait un prédicateur, asseyez-vous dans les lieux célestes en Christ Jésus. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue. Parce que si on a pour la première et la énième fois, on va tout de suite rentrer dans la parole. Nous sommes toujours, toute l'année 2015, nous sommes à l'école du Saint-Esprit. La personne la plus importante sur la terre. Il y a deux semaines, j'étais là et le Seigneur nous a dit que dans sa lettre aux Corinthiens, nous avons vu, je vais revenir, le Saint-Esprit m'a dit de revenir sur ce que j'ai dit il y a deux semaines, de revenir, parce que ce sont des thèmes qui ne sont pas très populaires, c'est vrai. Ce ne sont pas des thèmes où on parle de prospérité, d'impact, mais le véritable impact vient lorsque l'amour de Dieu se répand au travers de nous. Et le Seigneur m'a parlé clairement pour revenir sur ce que j'ai déjà dit il y a environ deux semaines, afin de nous aider à être conscients de la dimension de l'amour de Dieu. Nous avons vu que dans la dernière lettre de Paul aux Corinthiens, l'apôtre Paul a prononcé une bénédiction qui est passée inaperçue pour la plupart de nous croyants. Dans 2 Corinthiens 13, verset 13, il est écrit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu, le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec pas certains d'entre nous, pas les responsables de l'Église, mais il a dit que la grâce du Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Dis-moi, il parlait de moi. Dis encore, il parlait de moi. Nous avons dit que cette bénédiction nous donne une révélation extrêmement profonde et importante sur la relation qui doit exister entre le Dieu trinitaire, entre le Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et chaque citoyen du royaume des cieux, chaque enfant de Dieu, chaque véritable croyant. Dans notre marche chrétienne, nous avons vu que ces trois éléments fondamentaux doivent nous guider: la grâce, l'amour et la communion. Et chaque élément fondamental est lié à une personnalité de la Trinité. Le Dieu trinitaire entretient des relations avec chaque croyant, avec chaque citoyen, avec chaque enfant de Dieu. Le Père manifeste la grâce, l'amour plutôt. Le Fils manifeste la grâce et l'Esprit maintient la communion. On va le voir dans les prochaines semaines, peut-être dans 2 semaines ou la semaine prochaine, à combien il est important de comprendre que la communion du Saint-Esprit, la communion avec Dieu a toujours été la volonté dans le cœur de Dieu depuis que le monde est monde, depuis qu'il a créé les êtres humains. Dieu avait toujours désiré la communion comme un père qui met des enfants au monde et qui décide, ou comme une mère ou un père qui enfante et qui aspire à voir une relation intime, une relation passionnelle se développer entre le père ou la mère et les enfants. Telle a été la volonté de Dieu notre Père. Et Paul, en donnant cette révélation ô combien profonde de 2 Corinthiens 13, verset 13, nous rappelle simplement que de façon quotidienne, chaque citoyen du royaume est appelé à vivre, à marcher de manière vraiment consciente. Dis-moi, de manière consciente. De manière consciente dans les trois dimensions, dans les trois relations fondamentales, dans l'amour de Dieu, dans la grâce du Seigneur Jésus, dans la communion du Saint-Esprit. Chaque croyant est appelé à vivre et à marcher de manière consciente dans l'amour de Dieu. Et il y a 2 semaines, nous avons parlé de l'amour de Dieu et ce matin, le Seigneur m'a dit de revenir encore sur l'amour de Dieu, car l'amour de Dieu est un thème qu'on n'épuisera jamais. Celui qui pense qu'on a trop parlé de l'amour n'a rien compris à l'amour. On ne parlera jamais assez de l'amour. Nous avons dit l'amour de Dieu, Paul dit que l'amour de Dieu soit avec vous tous, soit avec nous tous. Que veut-il dire en disant cela? Nous avons dit que Dieu est amour. Nous avons expliqué que c'est l'amour qui est au commencement de toute chose, que Dieu a tout créé par amour, Dieu a fait tout ce qu'il a fait par amour, que la motivation principale, lorsque dans Genèse 1, il nous est dit au commencement, Dieu Elohim bara, Dieu créa les cieux et la terre, ce qui a motivé la création des cieux, donc de l'univers et de la terre. La seule motivation de Dieu en créant l'univers, c'était l'amour. Et quand Dieu a dit que la terre, que la lumière soit la lumière, la raison pour laquelle Dieu a parlé, prononcé la parole, ce qui l'a motivé, ce qui l'a inspiré, c'est l'amour. Parce que Dieu fait toutes choses par amour. La raison pour laquelle toutes les œuvres que Dieu fait sont excellentes et belles et admirables, c'est parce que Dieu les fait avec amour. Et j'ai dit que la raison, tout ce que toi tu fais, tout ce que tu fais de beau, d'excellent, de merveilleux, que les hommes apprécient, généralement, tu l'auras fait avec amour. Et tout ce que tu fais sans amour ne durera jamais, sera toujours un peu bancal. Mais quand tu fais quelque chose avec amour, c'est généralement un chef-d'œuvre. Nous avons dit que l'amour doit être le début et la motivation de toutes choses. Mais de quoi parlons-nous? Nous parlons de l'amour de Dieu, nous ne parlons pas de l'amour des hommes. Dans le grec, il y a 3 mots qui définissent l'amour, et en français, il y a un seul mot, c'est amour, mais dans le grec, il y en a 3. Il y a eros, qu'on appelle encore erotica, qui est l'amour charnel, l'amour qu'on a pour un homme ou pour une femme, parce qu'elle a un bon corps, parce qu'il a un bon corps. Alors je t'aime, et quand je pense à toi, je t'aime. Non, tu n'es pas en train de m'aimer, tu es en train d'aimer ma forme, mes formes qui un jour ou l'autre finiront par changer. M'aimeras-tu encore à ce point? Ça, c'est Eros, mais il te dit qu'il t'aime. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas de cet amour érotique ou Eros que nous parlons. Il y a aussi l'amour philéo. Nous parlons de l'amour philéo. L'amour philéo, c'est le partager ensemble. Je t'aime, toi non, je t'aime, moi non plus, tu m'aimes, moi aussi je t'aime. Parce que nous partageons ensemble, nous vivons ensemble, nous habitons ensemble, nous aimons être ensemble, nous prenons du plaisir ensemble. Ça c'est l'amour fraternel, l'amour entre les frères et les sœurs de la communauté ou d'une même famille, c'est de l'amour fraternel, c'est l'amour filéo. Mais il y a un autre amour qu'on appelle l'amour agapao, qui n'a rien à voir avec le fait de partager, qui a juste à voir avec le fait de donner. L'amour agapé
ou agapao, c'est le fait de donner. Je t'aime, tu ne me rends pas l'amour que je te donne, c'est pas grave, je t'aime quand même. L'amour agapao, c'est cela l'amour dont nous parlons. C'est cela la nature et la force, la puissance de l'amour de Dieu. C'est l'amour qui consiste à donner sans rien attendre en retour, à sacrifier sans rien espérer en retour, à donner alors que les autres ne me redonnent rien, à donner alors que les autres ne peuvent même pas me dire merci, tel un père, telle une mère, pardon, qui vient enfanter son enfant. L'enfant a six mois, tout ce qu'il veut, c'est de prendre son lait. L'enfant a trois mois, tout ce qu'il veut, c'est téter, c'est allaiter, parce qu'il a besoin de lait. Mais n'attends pas d'un enfant de six mois qui t'a réveillé à 3h du matin, il te réveille à 4h du matin, à 5h du matin. Ne t'attends pas que l'enfant vienne t'exprimer de la gratitude. Tout ce que l'enfant veut, c'est son lait maternel. Il veut téter le sein de sa maman parce qu'il a besoin du sein de sa maman. Et la maman qui comprend ces choses ne va pas dire j'en ai marre de te donner le sein. Non, la maman va donner parce qu'elle sait que l'enfant ne dira pas merci. Jamais on a vu un enfant de 6 mois dire merci maman. Si tu entendais ton enfant de 6 mois te dire merci maman, je crois que tu laisserais le sein, tu laisserais l'enfant, tu partirais. Quelqu'un me dit amen. C'est cela l'amour qui consiste à donner sans rien attendre en retour. Jamais une mère de famille, une vraie mère de famille, donne le lait maternel à son enfant en disant un jour quand tu auras 18 ans, tu vas me dire merci pour ce que je suis en train de faire pour toi aujourd'hui là. Faut opérer sanga. Tu vas me dire merci tôt ou tard. Non, ça ce n'est pas normal parce qu'à l'instant présent, tout ce que tu penses, tout ce à quoi tu penses, c'est donner à l'enfant ce dont l'enfant a besoin sans rien attendre en retour. Quelqu'un me dit amen. Est-ce qu'on peut continuer? Et la bonne nouvelle, nous avons dit, c'est que dans le livre de Romains 5:5, cet amour divin, cet amour agapao, c'est de cela qu'on parle lorsqu'il dit dans Romains 5:5, lorsqu'il dit que l'amour de Dieu est déversé et répandu dans notre esprit, dans nos cœurs, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Si Dieu n'avait pas donné le Saint-Esprit à ceux qui ont cru, les êtres humains ne seraient pas capables un jour d'arriver au stade de manifester cet amour qu'on appelle l'amour de Dieu. Autrement dit, tu n'as aucune excuse parce que l'amour de Dieu est déjà libéré à l'intérieur de ton esprit. Mais chez la plupart des croyants, cet amour est là déjà à l'intérieur de moi, mais il n'est pas libéré. Comme je suis dans une maison et puis j'ai besoin d'eau, j'ai un robinet, l'eau arrive dans la bâche d'eau où l'eau est quelque part, mais je n'arrive pas à ouvrir le robinet pour que l'eau se déverse, que je puisse en jouir et que les habitants de la maison puissent en jouir. L'eau est là, elle est disponible. Tout ce qu'il veut, c'est l'alvage. Tout ce qu'il faut, c'est la valve qui permet d'activer le robinet. Et chez beaucoup, ne savent pas, beaucoup de croyants ne savent pas comment ouvrir le robinet pour laisser couler l'eau de l'amour dans la maison, l'eau de l'amour dans la société. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais l'amour est déjà là. La Bible dit qu'il a déversé l'amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Le problème, c'est que l'homme est un esprit, il a aussi une âme, il habite dans un corps. Et l'âme n'arrive pas à laisser couler chez la plupart des croyants. On va peut-être le voir au mois de mars, si on fait un atelier au mois de mars. L'âme n'arrive pas à libérer la puissance, les flots de l'amour. Et c'est cela le problème. De quoi parlons-nous? Nous parlons de l'amour de Dieu. Dis-moi, l'amour est déjà en moi. Répète, l'amour de Dieu est déjà dans mon cœur. Il faut qu'il se répande. Il faut qu'il se libère. Quelle est la nature, quelle est la caractéristique de cet amour qu'on appelle l'amour de Dieu? Comment est-il caractérisé? Qu'est-ce qui caractérise l'amour de Dieu? J'ai compris que l'amour de Dieu, c'est de donner sans rien attendre en retour. Mais concrètement, qu'est-ce qui caractérise l'amour de Dieu? Pardon, nous avons vu, cet amour de Dieu est défini dans 1 Corinthiens 13, où le Saint-Esprit nous révèle réellement la caractéristique, la nature même de l'amour. C'est quoi aimer selon Dieu? C'est quoi aimer selon Dieu? On nous a dit beaucoup de choses, mais Dieu nous dit quoi? Dans 1 Corinthiens 13, Dieu nous dit, celui qui aime, donc aimer, pardon, aimer, celui qui aime est patient. Celui qui aime est patient. Celui qui aime, il sait attendre. Son cœur est largement ouvert aux autres. Son cœur est grand, son cœur est ouvert aux autres. Celui qui aime est serviable. L'amour est serviable. Il est plein de bonté et de bienveillance. Il cherche à être constructif. Et il se plaît à faire du bien. Quand quelqu'un aime, il veut faire du bien aux autres. Quand quelqu'un aime, il est serviable. L'amour est un serviteur. Comme la maman qui sert l'enfant à 2h, 3h du matin parce qu'il a faim. Elle n'attend rien en retour de son enfant. Elle sert l'enfant. Quelqu'un me dit amen. L'amour est un serviteur. Dis-moi, l'amour est un serviteur. L'amour est serviable. Celui qui aime aura tendance naturellement à servir. Celui qui n'aime pas n'aura pas tendance à servir. Il est bienveillant. Il cherche à être constructif. Il se plaît à faire du bien aux autres. Quand il sème le bien, celui qui aime est dans la joie. Parce qu'il a semé le bien. Parce qu'il a donné le bien. Il ne souffre pas. Dis-moi, amen. L'amour vrai, il dit, n'est pas possessif. Il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie. Il n'est pas envieux. Il ne connaît pas la jalousie. Celui qui aime n'a pas le temps d'être envieux ou jaloux. Il ne cherche pas à être possessif. Non, non, non. Celui qui aime est libre. Tout ce qu'il veut, c'est donner. Dis-moi, amen. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. On n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se rengorge, s'étale ou s'enfle d'orgueil, il n'est pas inspiré par l'amour. Pourquoi ? Parce que l'amour n'est pas orgueilleux. L'amour aspire à ce qui est humble. L'amour aspire à ce qui est simple. Aimer, c'est aussi se conduire avec tact et droiture. La raison pour laquelle on cherche et on aspire à la droiture, c'est l'amour qui nous pousse à être droit. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. L'amour n'aime pas blesser les autres. L'amour n'aime pas scandaliser les autres. L'amour n'est pas dédaigneux. Nous parlons là du caractère intrinsèque, de la nature même de ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Quelqu'un me dit l'amour de Dieu. Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Aimer, c'est de ne pas penser d'abord à soi. On l'a dit encore il y a 2 semaines. Aimer, c'est de ne pas penser à toi et de ne pas penser à soi. Aimer, c'est de ne pas chercher son propre intérêt. Aimer, c'est de ne pas insister sur ses droits. Ça veut dire que l'amour ne cherche jamais son intérêt. L'amour de Dieu, même quand tu as raison, l'amour de Dieu va te faire dire « j'ai tort ». L'amour de Dieu, c'est la capacité à dire « j'ai tort » lorsque tu as raison. L'amour de Dieu, c'est la capacité à dire « je demande pardon » lorsque je n'ai rien fait, juste pour avoir la paix. Juste pour réconcilier une relation, tu peux te dire « je te demande pardon ». J'ai fait ça, c'est alors que tu n'as rien fait. Mais tu le dis parce que tu veux avoir la paix, parce que tu veux rétablir la paix. Est-ce que quelqu'un me suit ? L'amour, ce n'est pas quelqu'un qui dit « non, j'ai raison, j'ai mes droits, cette fois-ci je ne changerai pas, je ne céderai pas ». Non, aimer, ce n'est pas cela. L'amour n'est pas irritable. On parle de l'amour de Dieu, les caractéristiques de l'amour de Dieu. Il ne s'aigrit pas contre les autres, il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le soupçonne pas chez les autres non plus. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Aimer, quand on aime, on n'a pas le temps de concevoir le mal dans son esprit. Quelqu'un qui aime ne peut pas imaginer le mal. Quelqu'un qui aime ne peut pas concevoir le mal. Voilà pourquoi parfois quand tu aimes, tu es naïf. Parce que tu crois que tout le monde est bon. Tout le monde est gentil. Quand tu aimes, tu penses que tout le monde est sincère. Quelqu'un me dit amen. Quand on aime, on pense que tout le monde est sincère. Jusqu'à ce qu'on découvre que finalement les gens ne sont pas aussi sincères qu'ils le croient. Jusqu'à ce que tu découvres que finalement les gens mettent des masques. À l'église, ils mettent des masques. Zorro est arrivé. Hein? Les gens mettent des masques. Mais ça ne peut pas ébranler l'amour. Dis-moi amen. Quand on ne se sent pas le mal chez les autres, fais attention. Ça veut dire que quand on vient accuser quelqu'un devant toi, quand l'amour a déjà travaillé en toi, quand l'amour est en train de travailler en toi, tu ne vas pas croire ce qu'on te dit sur quelqu'un. Sur telle ou telle personne, tu ne croiras pas. Tu vas appliquer la parole qui dit que c'est sur la déclaration de 2 ou 3 témoins qu'une vérité est établie. Si tu viens accuser quelqu'un, montre-moi d'abord les preuves. Donne-moi au moins 2 ou 3 preuves de ce que tu dis est vrai. Pourquoi ? Parce que tu n'arrives pas à croire. Tu sais pourquoi ? Parce que tu ne soupçonnes pas le mal. Tu n'arrives pas à croire le mal d'autrui. Si l'amour n'a pas encore commencé à faire le travail en toi, dès qu'on te dit que Motewana, un tel a fait, je savais, sans preuve, sans vérification, sans rien. Ça, ce n'est pas l'amour qui t'a motivé. Il faut encore prier pour creuser un peu dans l'amour. Dis-moi amen. Si on subit des torts, on n'en garde aucune rancune. L'amour ne garde pas de rancune. On subit des torts. On subit des insultes, on subit des critiques, on subit des attaques. Ça fait mal, très bien, mais on ne garde pas rancune. On est capable de dire, Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est la position, l'attitude, le caractère de l'amour. Quelqu'un me dit, amen. L'amour couvre tout. Il souffre tout, il endure, et il pardonne tout. Il s'est passé par-dessus les fautes, il passe par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir. Aimer, c'est espérer sans jamais abandonner. Aimer, c'est savoir tout porter, tout surmonter. L'amour n'aura pas de fin. Marcher dans l'amour de Dieu. Paul nous dit que l'amour de Dieu soit avec vous tous les jours, au quotidien, régulièrement. Soyez conscients de marcher dans l'amour de Dieu. Marcher dans l'amour de Dieu, c'est marcher dans les quatre dimensions de l'amour. Nous avons parlé des quatre dimensions de l'amour. Les quatre dimensions de l'amour. Les dimensions de l'amour sont liées à la croix de Christ. La croix de Christ, nord, sud, est, ouest, ce sont les quatre dimensions de l'amour de Dieu. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, l'apôtre Paul nous révèle par le Saint-Esprit, sous l'inspiration de l'Esprit, il nous dit, c'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père. Et ensuite, je vais au verset 17, Paul est en train de faire une prière pour les Éphésiens. Et les Éphésiens étaient des croyants très matures. C'est aux Éphésiens, à l'église d'Éphèse, que Paul a révélé tous les mystères, tous les merveilleux mystères de la parole. C'est aux Éphésiens. Ce n'est pas aux Corinthiens, c'est aux Éphésiens. Il dit, je prie que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés, vous, les citoyens du royaume. Je prie que Christ habite dans vos cœurs et que vous soyez enracinés. Je prie que vous soyez enracinés et fondés, pas dans la puissance de Dieu, mais dans l'amour de Dieu. Et ici, le mot amour, c'est agapao. Paul prie que nous soyons enracinés, que quand on regarde nos vies, quand on regarde la fondation de nos vies, qu'on observe, qu'on se rende compte que finalement, ces gens qui se disent croyants, croyants plutôt, ces gens qui se disent citoyens du royaume, sont réellement enracinés. Quand on voit les racines de leur cœur, ils sont enracinés dans quelque chose qui est inébranlable. Cette chose s'appelle l'amour. Quelqu'un me dit l'amour de Dieu. Enraciné, ça veut dire que tu plantes comme un arbre, on te plante dans le sol. Et quand on voit la fondation de laquelle tu es, c'est uniquement l'amour. Pour être capable, verset 18, de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître intimement l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Il n'a pas dit que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude du Saint-Esprit. Il y a une différence entre être rempli du Saint-Esprit et puis être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. La totalité de ce que Dieu est, de ce que Dieu peut contenir, on peut l'atteindre en comprenant et en marchant dans les quatre dimensions de l'amour de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Paul nous parle de la largeur, de la profondeur. Il dit que vous devez être enraciné dans l'amour de Dieu. Et il parle, il donne ensuite des détails, des dimensions, les quatre dimensions de l'amour. J'ai dit que les quatre dimensions de l'amour sont liées à la croix de Christ. Christ était sur une croix et sur la croix on voyait les quatre dimensions de son amour. La première dimension, c'est la largeur. Paul veut, le Saint-Esprit veut que nous marchions dans la largeur de l'amour. Quand on parle de largeur de l'amour, à quoi fait-on allusion? Sur la croix du calvaire, Jésus a étendu les mains. Il a étendu ses mains, il était crucifié sur la gauche comme sur la droite. On a mis des clous sur ses côtés. Pourquoi? Il a étendu les mains. Et la Bible dit que Dieu, dans Jean 3, 16, a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a aimé qui? Le monde. Il a aimé l'humanité. Il a aimé le cosmos. Il a aimé la race humaine. Dis-moi, je fais partie de la race humaine. Dieu m'a aimé. Et Dieu m'aime encore. Et Dieu m'aimera toujours. Dis-moi, Dieu m'aime. Quand on parle de la largeur de l'amour, on fait référence à quoi? Qui est inclus dans l'amour de Dieu? La largeur parle de l'inclusion de tous les êtres humains. Jésus a dit, lorsque les fils de l'homme, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai de la terre tous les hommes vers moi. Il ne s'est pas limité à attirer une catégorie d'hommes. Il s'est attaché à attirer tous les hommes vers lui. La largeur de l'amour de Dieu parle de la capacité de Dieu, de la volonté de Dieu, de l'amour de Dieu, d'inclure absolument tout le monde, tous les peuples, toutes les races, les noirs, les marrons, les blancs, les jaunes, toutes les communautés, toutes les races, tous les peuples de la terre. L'amour de Dieu, quand on parle de largeur de l'amour de Dieu, la largeur de l'amour de Dieu nous parle de la capacité, de la volonté de Dieu d'inclure tout le monde, d'inclure toutes les tribus. Si tu as une ethnie, d'inclure toutes les ethnies, toutes les langues, tous les villages, pas seulement certaines ethnies. Dis-moi amen. L'amour de Dieu t'oblige à accueillir tout le monde, à faire de la place à tout le monde, à aimer tout le monde, à accepter tout le monde, à ne pas seulement accepter des gens de ton coin. Quelqu'un me dit amen.
Amen.
Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Ça, c'est l'amour des hommes. L'amour de Dieu t'ouvre à tout le monde. Tu inclines tout le monde, tous les peuples, les langues, les tribus, les gens que tu connais, les gens que tu ne connais pas. Tu les inclus dans l'amour de Dieu. La largeur de l'amour de Dieu nous parle de la volonté de Dieu d'inclure à travers toi tout le monde, les riches et les pauvres. Vous seriez surpris de savoir qu'il y a encore des endroits aujourd'hui sur la terre, c'est déjà le cas hier. Je ne parle pas des gens du monde, je parle des croyants, où certaines personnes ne sont pas incluses, où les riches et les pauvres sont distingués, où les riches et les pauvres sont mis à part, où on aime mieux être avec les pauvres plutôt avec les riches, parce qu'on est riche et on ne veut pas être avec les pauvres. Les gens qui ont fait l'apartheid étaient des chrétiens, beaucoup étaient des chrétiens, soi-disant. Mais ils étaient convaincus que Dieu ne pouvait aimer que eux. Il y a encore des quartiers, même en France, aux États-Unis surtout, où il y a même des églises aux États-Unis où il n'y a que des riches. Ou quand tu es un peu pauvre là, un peu broke, cassé là, tu n'as pas ta place. Parce qu'on fait de la ségrégation. Nous, on aime Dieu, mais on aime entre nous seulement. Même chez nous, en Afrique, pas au Congo. Au Congo, on est trop bien. Au Congo, on n'a pas ces problèmes-là. Il y a des églises où on te fait clairement comprendre. Il faut classer les gens entre les VIP et les autres. Comme si dans le royaume de Dieu, il y avait des VIP. Il y a des gens qui ne peuvent pas venir ici, c'est parce qu'ils sont VIP et ils se demandent où est-ce qu'ils vont s'asseoir. J'ai dit, à ICC, il n'y a pas de VIP. Il n'y a que des enfants de Dieu. Parce que l'amour de Dieu doit t'apprendre à inclure tout le monde. Si tu viens ici et puis tu espères parce que tu es une autorité ou un cadre de la place, tu n'es pas bienvenu à ICC. Ils ne viennent pas là parce qu'ils se disent, ah, mais il va me placer où? Il va m'honorer comment? Est-ce qu'il y a une place pour moi? Non, il n'y a pas de place pour toi, mon frère. Il n'y a pas de place. Ici, on mélange tout le monde. Parce que tout le monde est important. Aux yeux de Dieu, tout le monde est important. Personne n'est pas important. Tout le monde est important. Ça a l'air bête ce que je vous dis, mais beaucoup, parce qu'ils ne marchent pas dans l'amour de Dieu, sont obligés de faire la séparation, la distinction. Ce n'est pas l'amour qui motive ce genre de choix. Quelqu'un me dit amen. Sais-tu ce que celui qui est petit deviendra demain? Sais-tu ce que celui qui est méprisable aujourd'hui deviendra demain? C'est moi, quelqu'un me dit amen ici. Dis-moi l'amour de Dieu. L'amour de Dieu te rend capable et cet amour est déjà en... Il est déjà en toi. Il est déjà en toi. Il faut juste que tu acceptes de l'ouvrir pour inclure tout le monde. Pas seulement les gens de ton ethnie. En Afrique, beaucoup de nos pays souffrent à cause des ethnies. Telle ethnie est plus forte, telle ethnie est plus brillante, telle ethnie est plus intelligente. Bêtise, permettez l'expression, foutaise. L'amour de Dieu ne pense pas comme ça. L'amour de Dieu pense que Dieu a créé des êtres humains et tous les êtres humains sont bons. Chacun de nous a du potentiel, des valeurs, des grâces, des faveurs, des choses excellentes à donner. Tout ce qu'il faut, c'est qu'on fasse confiance aux humains, c'est tout. Quelqu'un me dit amen. L'amour de Dieu doit te permettre d'inclure aussi tes ennemis, tes adversaires. Tes adversaires. Qui sont tes ennemis? Il est très important. Beaucoup ont fait le choix de ne pas inclure les ennemis, de ne pas aimer les ennemis. Dieu dit, tu dois aimer tes ennemis. Dans Matthieu 5, verset 44, verset 43, Jésus nous dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras, tu haïras, tu détesteras ton ennemi. Mais moi, dit la parole de Dieu, je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Il vient de te dire, pour aimer, l'amour de Dieu inclut les ennemis. Tu n'as pas entendu. L'amour de Dieu inclut les ennemis. L'amour de Dieu inclut tes ennemis. Dieu nous a fait comprendre que dans la vie, tout le monde doit avoir des ennemis. Si tu n'as pas d'ennemis, tu vas t'ennuyer, tu ne vas rien faire de bon. Si tu n'as pas d'ennemis, tu risques même de ne plus t'attacher à Dieu. Salomon, dans son règne, n'a pas eu beaucoup d'ennemis. Regardez ce qu'il a fait comme bêtise. Comme il n'avait pas d'ennemis, il passait son temps à chercher des femmes. 1000 femmes pour un seul homme. 1000 femmes, frère, 1000. 1000 femmes. Quand on n'a rien à faire, on commence à faire que des bêtises. Quand tu as un peu d'adversité là, tu dis, Seigneur, aide-moi. Tu vas dans la présence de Dieu parce que tu as besoin de te ressourcer constamment. Quand tu n'as pas d'ennemi, une chose, j'ai compris, un ennemi est aussi indispensable qu'un ami. Mais l'ami ne te pousse pas vers ta destinée. L'ennemi te pousse vers ta destinée. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Oh, quelqu'un me dit amen. S'il n'y avait pas eu un Judas, il n'y avait pas eu un Judas, s'il n'y avait pas eu un Judas, il n'y aurait pas eu la croix. S'il n'y avait pas eu un traître, il n'y aurait pas eu la croix. Mais quand Jésus a vu Judas venir pour lui faire la bise, le baiser de la mort, comme on dit, le baiser de Judas, bon baiser de Judas. Bon baiser, il y a des bons baisers de Judas. Jésus n'a pas dit, mon ennemi, ah, tu m'as trahi. Jésus lui a dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Il a appelé son ennemi, son ami. Pourquoi? Parce que son ennemi le poussait vers la croix. Il était venu pour la croix. Il devait aller à la croix. Toute personne qui te pousse volontairement ou involontairement vers ta destinée n'est pas toujours un ennemi. C'est vrai que c'est un ennemi, mais Dieu dit aime-le parce qu'en réalité, il te fait du bien. Toute personne qui te pousse à cause des problèmes qui te font à t'attacher à Dieu, à dépendre de Dieu, à aimer Dieu, toutes les personnes qui t'ont poussé à travers les circonstances de la vie à dépendre non plus d'eux, mais de Dieu, t'ont rendu service. Oh, mon frère. Toutes les personnes qui t'ont aidé à t'attacher à Dieu, tu voulais t'attacher à eux. Ils t'ont dit, va-t'en, on ne veut pas toi, on ne t'aime pas. Tu dis, Seigneur, je n'ai plus que toi désormais. Ils t'ont rendu service. Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Tu les appelles ennemis, mais en réalité, ces ennemis, ils t'ont aidé. Ils ont été comme pour toi des amis. Ils ont été comme pour toi des pousseurs. Pousse, 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 pousse. Ils t'ont poussé vers le trône de Dieu. Or, c'est là-bas que tu trouves la force. C'est là-bas que tu trouves la force. Oh, le secours de l'homme n'est que vanité. Je ferme la parenthèse et je continue. Il nous dit donc, aimez vos ennemis. Dis-moi, j'aime mes ennemis. Dis, donne-moi d'aimer mes ennemis. Mais il t'a déjà donné, c'est déjà en toi. Il faut maintenant seulement activer. Il faut maintenant dire, oui, je décide d'aimer. Parce que l'amour de Dieu n'est pas une émotion, n'est pas une émotion, n'est pas un sentiment, n'est pas une sensation. L'amour de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'il faut attendre à ressentir. Il faut décider de le donner. Parce que dans tous les cas, je te dis, que tu le donnes ou que tu ne le donnes pas, il y a un prix, il y a une souffrance. Tu donnes l'amour, tu vas souffrir. Mais tu ne donnes pas, tu souffriras encore plus. Quelqu'un me dit amen. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Autrement dit, élargissez votre amour à vos ennemis. Pas seulement à vos amis, élargissez votre amour à vos ennemis. Logiquement, là, dans le texte, il devrait y avoir deux points ou une pause. Parce que juste après, il te décrit les trois types d'ennemis que tu as. Oh là là, les trois types d'ennemis que tu as. Les premiers ennemis, il te dit, c'est ceux qui te maudissent. Ceux qui te maudissent. Mal dire, maudissent. Mal dire, mal parler. Ceux qui parlent mal de toi. Ils te salissent avec leur langue, avec leurs lèvres. Ils te salissent, ils te critiquent, ils te calomnient. Ils te font du mal. Ils te blessent avec leurs paroles. Ils te maudissent. Sciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, quand ils parlent de toi, ils te déchirent. Mais avec leur langue, ils sont en train de te maudire. Diffamation, accusation, dénigrement, calomnie, c'est ça les malédictions. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il te dit, la première catégorie d'ennemis, c'est cela. Ils te détruisent avec leur langue. Si tu sais que pour tuer quelqu'un, on peut le tuer avec des paroles. Ah ah, vous ne saviez pas ça? Mais on te tue avec des paroles. Si tu acceptes bien sûr les paroles. Et il te dit cela, justement pour ne pas mourir par leurs paroles. Papa dit, vous êtes vous aussi des méchants, vous. Non, il dit non, 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 pas comme ça. Dans le royaume de Dieu, mes enfants à moi, il doit bénir les ennemis. Il doit bénir ceux qui les maudissent. Quelqu'un te maudit. La tentation normale, riposte humaine, naturellement. Ah bon, il a dit ça à mon sujet. Alors là, prends le téléphone. Tu as dit quoi? Papa, c'est fini. Tu fais exactement comme lui. Dieu dit à ceux qui te maudissent, la réponse, c'est les bénir. Dieu ne te demandera jamais de faire ce que tu ne peux pas faire. Et Dieu me dit de te dire que cet amour-là, qui consiste à bénir ceux qui te maudissent, est déjà en toi. Mais c'est ton âme qui dit, jamais je ne bénirai. Là, tu as décidé. C'est là le problème. Ton âme a dit, pas question. Ton esprit dit, laisse couler la pompe. Le flot de l'amour doit se déverser. L'âme dit, pas question, ton pied, mon pied, je ne pardonnerai pas. Je répondrai, tu ne réponds pas, tu te tais et tu bénis. Et là, ce n'est pas une émotion, c'est une décision. Je décide d'aimer, je décide de le bénir. Moi qui vous parle, je vis ça au quotidien. Donc je sais pratiquer ça parce que, et ça marche. Oh frère, Nous, tout ce qu'on dit dehors. Puis, et ce n'est pas encore fini. Hein. Ça va augmenter. ICC, je vous préviens. Moi, je suis déjà au courant. Ah. Je ne vais pas vous dire tout ce que Dieu me dit. Je suis déjà au courant de ce qui m'attend. Je suis déjà au courant. Et j'enseigne pour que le peuple soit préparé. Sinon, on va vous tuer. Les paroles des gens vont vous démolir. Ce que vous allez entendre va vous ébranler. Il faut être prêt. Quand on va en guerre, on prend les armes et on va à la guerre. Amen. L'arme qu'il faut avoir quand on va en guerre, c'est l'amour de Dieu. Amen. C'est ça qui va t'éviter d'être blessé. Aimer va t'éviter de prendre des coups. Ah, plus jamais. Non, il me dit, ah, ils m'ont fait mal, mais je me relèverai. Oh, quelqu'un dit amen. Bénissez ceux qui parlent mal, ceux qui vous salissent, vous calomnient, ceux qui utilisent leur bouche pour vous maldire, pour dire mal. Vous, en retour, dites des bonnes phrases à leur sujet. Ne parlez pas comme eux, parlez le bien. Dis-moi un bon amen. Deuxième catégorie d'ennemis, c'est ceux qui vous haïssent. Tu as des gens qui te détestent, ils te haïssent, que tu es fait, que tu n'es pas fait, que tu sois, que tu ne sois pas, ils te détestent. Le monde est un monde de méchanceté. Il y a des gens qui te détestent. C'est leur nature. Ils sont inspirés par le diable. Est-ce que tu sais que beaucoup de gens sont utilisés par le diable sans le savoir? Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi, tu vas dire, ils savaient ce qu'ils faisaient. Non, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils étaient inspirés, poussés par des esprits de haine et de méchanceté. Beaucoup de gens peuvent se lever contre toi, pensant bien faire. Je répète, beaucoup de gens vont se lever contre toi, dans ta famille, dans ton travail, dans les gens que tu connais, que tu ne connais même pas. Ils vont se lever pensant bien faire. La majorité du temps, ils sont inspirés par des esprits de méchanceté. Mais ils ne le savent, ils sont comme tu les guidais. Et ils ne le savent pas. Toi, tu dois discerner que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits démoniaques qui sont cachés derrière les individus. Ils oppressent l'âme. Et le gars, il te déteste. Pourquoi il te déteste? Tu sais pas pourquoi il te déteste. Là, tu dis, il me déteste, moi aussi je te déteste. Non, il a dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Dis-moi amen. Amen. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Parce que la tendance normale, c'est de ne pas faire du bien. Il dit, fais du bien. Est-ce qu'on peut continuer? Et la troisième catégorie d'ennemis, il dit, pour lesquels tu dois aimer, c'est ceux qui te maltraitent et te persécutent. Cette catégorie d'ennemis, la deuxième catégorie, c'est ceux qui, dans leur âme, te détestent. La première, dans leur bouche, là, ils te détestent, ils te salissent. L'autre catégorie, ils te haient. Quand ils te voient, ils ne te supportent pas. Quand ils te voient, franchement, ils ont envie de même de te taper. Quand ils te voient, tout ce qu'ils trouvent à dire, c'est la méchanceté. Ils te haient. Généralement, quand ils te haient, soit ils te le montrent, soit ils ne te le montrent pas, mais tu sens qu'ils te haient. C'est la haine. Ils te détestent pour rien. Jésus dit, ils m'ont haï sans cause. Même quand tu fais le bien, quand ils te haient, le bien que tu as fait là, il va le changer en mal. Quand il cherche de prêcher là, il regarde mon pantalon, il regarde ma tête, il regarde les boutons. Il essaie de trouver les cheveux. Il va me haïr. Et moi, je ne fais que sourire. Quelqu'un me dit amen. Mais la dernière catégorie des ennemis, c'est ceux qui te maltraitent et te persécutent. Là, Dieu dit, prie pour eux. Prie pour eux. Parce qu'ils te haïssent. D'accord. Mais eux là, ils veulent carrément ta peau physiquement. Ils touchent carrément à ta peau physiquement. Ils s'en prennent à toi physiquement. Il y a plusieurs niveaux de maltraitance et de persécution. Généralement, là, ça touche au physique. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, même quand physiquement, ils t'en veulent, bénis Dieu, prie pour eux. Pas, ne dis pas, au nom de Jésus, j'envoie le feu. Non, prie pour eux, que Dieu leur fasse grâce, que Dieu leur fasse la grâce de les connaître, que Dieu leur accorde l'intelligence, la sagesse, la crainte de son nom, que Dieu bénisse leur famille, bénisse leur foyer. Quelqu'un me dit amen. Parce que tu vois, le Dieu qui te demande de faire ça, il te dit, moi j'inclus tout le monde, toi aussi inclus tes ennemis. Parce que il dit, le Dieu dit, mon but, verset 48, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Parce que Dieu, notre Père, ton Père qu'on appelle Dieu, fait briller son soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait briller la lune, il fait briller et tout sur les justes et sur les injustes. Ceux qui le connaissent, ceux qui ne le connaissent pas, il leur donne les mêmes grâces. La pluie en sa saison, la pluie en son temps. Le soleil sur les bons, sur les méchants. Dans même la maison du sorcier, là aussi, il y a le soleil. Dis-moi amen. Pourquoi est-ce qu'il te demande d'élargir ton amour, d'étendre, d'inclure dans ton amour tes ennemis? Parce que tes ennemis, je répète, sont des atouts pour ton avenir. Tout ennemi va t'aider à devenir meilleur. Toute personne qui a des ennemis, en général, les ennemis vont t'apprendre l'humilité. Les ennemis t'apprennent à être humble. Ils t'apprennent à compter sur Dieu. Ils t'apprennent à t'attacher à Dieu seul. Quand tu n'as pas d'ennemis, tu as tendance à vouloir être avec tout le monde. Quand tu as beaucoup d'ennemis, tu as tendance à aimer la solitude. Bon, ok, tu ne me comprends pas. Pas de problème. Vis encore. Vis seulement. Vis seulement. En fonction de ton appel, chacun... Moi, j'ai appris à être seul, j'ai appris à aimer la solitude. Pourquoi? Parce que trop d'ennemis. Et je m'en réjouis. Parce que je n'ai pas choisi. C'est Dieu qui a choisi. Et Dieu fait grâce. Mais les ennemis me rendent meilleur. Parce qu'ils m'apprennent à être sous mes gardes. Ils m'apprennent à ne pas trop parler. Et quand tu parles, tu dis « Oups !» Dès que tu as parlé, ils exploitent toutes tes paroles. Les ennemis, ils sont importants dans la vie. Quelqu'un me dit « Amen ». Si tu ne veux avoir que des amis autour de toi, c'est bien. Mais il faut avoir des ennemis aussi de temps en temps. D'ailleurs, même quand tu auras des ennemis, tu ne le sauras même pas. Tu le sauras seulement le dernier jour. Ah bon? Donc toi, tu avais fait ça. Tu ne savais pas, c'était un ennemi. Est-ce qu'on peut continuer? La largeur nous parle donc d'inclure. Dieu veut que tu apprennes à inclure tout le monde. Dis-moi, je veux inclure tout le monde. Oui, c'est difficile, mais tu peux y arriver. C'est ta décision. Décide seulement. La deuxième dimension de l'amour, c'est la longueur. La longueur nous parle de jusqu'où tu peux supporter, jusqu'où tu peux endurer. Juste que tu peux supporter d'aimer. Supporter, endurer. Quelqu'un a demandé à Jésus, « Maître, combien dois-je pardonner la faute? Le gars là me fatigue. Combien de fois dois-je pardonner la même faute ?» Jésus lui dit pour la bague, il dit, « Tu dois pardonner 4090 fois. 7 fois, 777 fois. » La dimension de la longueur fait référence au temps et à l'espace. La dimension de l'amour, la longueur de l'amour nous parle jusqu'où tu peux supporter les autres. Jusqu'où tu peux endurer les autres. Est-ce que ton amour est capable de supporter sans limite? Est-ce que ton amour est capable de tolérer? As-tu fixé des seuils de tolérance? As-tu fixé des limites? Ou as-tu fixé des seuils pour supporter? Il y a des adversaires qui ont fait la énième fois, ils t'ont fait du mal, et ils t'avaient promis qu'ils ne recommenceraient plus, et ils ont recommencé. Et tu as dit, cette fois-ci, je ne pardonnerai plus. Cette fois-ci, là, c'est trop maintenant. 2015, là, si tu me fais mal encore, c'est terminé. Tu as fixé donc des bornes, tu as fixé des limites à l'amour. Dieu dit non, l'amour de Dieu ne regarde pas l'espace et le temps. Dieu t'aime au-delà de l'espace, au-delà du temps. Dis-moi, amen. Tu vois, le Saint-Esprit m'a dit, je n'ai jamais cessé de vous aimer malgré tout le mal que vous me faites. Malgré toute la souffrance que vous infligez à votre Père qui est dans les cieux. Et vous m'infligez à moi, le Saint-Esprit, en me méprisant, en m'ignorant, en me blessant. Alors que j'avais dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, vous m'attristez. Malgré ça, je n'ai pas cessé de vous aimer. C'est ma nature, je vous supporte. Je vous tolère. Je suis patient. J'endure vos bêtises. J'endure vos péchés. J'endure vos crimes. J'endure vos abominations. Pourquoi? C'est ma nature, je suis amour. Je patiente. J'espère toujours que le meilleur changera, que le meilleur viendra en vous. J'espère toujours. Je travaille toujours, petit à petit, pour que le bon sorte de vous et que le mal soit éliminé de vous. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu te supporte depuis longtemps. Dieu est patient avec toi depuis très longtemps. Question, est-ce que toi, tu es patient avec ton prochain? Ou bien tu as mis une limite? Dieu n'a jamais dit, à partir de 2016, mon fils, ma fille, tu pèses, tu meurs. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu dit, je t'aime d'un amour éternel. Quelqu'un me dit, amen. Dieu est patient et il n'a jamais cessé de t'aimer. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu pour toi n'a jamais diminué. L'amour de Dieu pour toi est constant. Tu sais pourquoi il est constant? Parce qu'il s'étend dans l'espace et dans le temps. Il ne change pas. Dieu me dit de te dire de ne pas changer. Les gens t'ont fait mal. Prends le coup. Souffre. Prends de la hauteur. Aime-les encore. Même si tu ne les vois plus, accepte d'endurer. Accepte de ne pas mettre de limites. Ne dis pas, c'est la dernière fois. Après, je ne pardonnerai plus. Si, tu pardonneras encore. Parce que toi, tu as été pardonné. Patiente, parce que toi, Dieu a été patient et Dieu est patient avec toi. Quelqu'un me dit amen. La largeur, la longueur et ensuite la profondeur. Nous avons vu que la profondeur nous parle de l'intensité, de la force, l'intensité de l'amour. Il est écrit, Dieu a tellement aimé le monde, il a tant aimé le monde. Le mot tant parle de la force, de l'intensité. Le Saint-Esprit m'a dit de dire qu'il n'existe pas de péché, il n'existe pas de faute. Tellement grande que Dieu ne puisse pas les pardonner. Écoutez-moi, il n'y a aucune faute qui soit tellement grave que Dieu ne peut pas l'effacer par le sang de Jésus. Il n'y a aucun crime qui soit tellement profond que Dieu ne peut pas pardonner. Il n'y a aucune personne qui soit tellement mauvaise que l'amour de Dieu ne peut pas le toucher. Dieu veut que l'amour qui sort de toi soit un amour intense. Pour les pires des pécheurs, pour les gens les plus irrécupérables. Le Saint-Esprit me disait hier, le problème dans l'Église, c'est que beaucoup nous avons catégorisé les gens. Il y a des gens dont tu penses qu'ils ne seront jamais sauvés, parce qu'ils ne peuvent pas sauver, ou tu penses qu'ils ne peuvent pas être sauvés, ou ils ne sont pas dignes d'être sauvés. Tu as oublié la nature de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est allé te chercher toi hier. Quel que soit ce que tu faisais, tu ne faisais pas. L'amour de Dieu allait te sortir de là où tu étais. Le Saint-Esprit m'a dit, l'amour de Dieu est capable. Tu vois, quand on parle de la profondeur, on parle de dimension de l'amour, on parle de la croix de Christ. La croix de Christ, les croix romaines étaient plantées, elles n'étaient pas collées sous des arbres, non. Les croix romaines étaient plantées en profondeur, comme ils étaient mis, il y avait une fondation profonde. On les plantait en profondeur, pourquoi ? Pour que la croix, puis on mettait du sable et des murs, des blocs de roc. Pourquoi ? Pour que la croix ne penche pas au point que l'homme tombe, que la croix tombe. Donc on voulait s'assurer que la croix soit solidement fixée. On l'a plantée dans le sol. Elle allait en profondeur. C'est ça la profondeur de l'amour. Dieu m'a dit, l'amour de Dieu est capable d'aller en profondeur jusqu'en enfer pour aller sortir les pécheurs et leur donner l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est capable d'aller chercher en profondeur des gens comme le Saul de Tarse, qui étaient des persécuteurs, des assassins, des criminels, qui tuaient les gens, les chrétiens, nés de nouveau. Il allait chercher des gens comme le Saul de Tarse et les emmener dans le royaume de Dieu. Il en a fait des champions de Dieu, des grands hommes de Dieu, qui étaient avant des persécuteurs. L'amour de Dieu peut aller en profondeur pour prendre des femmes comme prostituées, connues de toute la ville, comme des rahabes, et en faire des femmes vertueuses. Des femmes extraordinaires. Là où les hommes avaient dit, il n'y a plus d'espoir. L'amour de Dieu va chercher dans les décombres de la prostitution des femmes vertueuses. Parce que Dieu ne voyait pas le péché. Il voyait les femmes qui cherchaient, désespérées. Mais pour ça, il va falloir que tu acceptes d'aller en profondeur toi aussi. Arrêtez de regarder les gens en surface. Creusez un peu. Parce que les gens ne sont pas toujours aussi noirs qu'on ne le pense. Je n'ai pas entendu quelqu'un me dire amen. L'amour de Dieu est arrivé dans la ville et il a vu un homme qu'on appelait Zachée qui avait une mauvaise réputation, qui était un homme riche, un escroc de la ville. Zachée, Jassé, montait sur un arbre parce qu'il voulait être sauvé. Mais dans la ville, tout le monde disait, mais c'est un monsieur mauvais, c'est Zachée. Même les gens mauvais ont besoin d'être sauvés. Et pour ça, il faut les regarder avec le regard de l'amour de Dieu qui est profond et qui creuse, qui va en intensité. Dieu a tellement aimé Zachée, Dieu a tellement aimé les prostituées, il a tellement aimé les sorciers qu'il est capable de regarder outre la sorcellerie, d'aller chercher le sorcier pour l'emmener à devenir un véritable ministre de Dieu. Dis-moi amen. Dans 2 Corinthiens 5, verset 14, il dit, l'amour de Christ nous presse, l'amour de Dieu nous étreint, l'amour de Dieu nous pousse en avant. Nous annonçons l'évangile, nous nous sentons poussés par l'amour de Dieu. Et je suis consumé à l'intérieur par l'amour. Brûlé par l'amour. Je ne regarde pas aux obstacles pour dire, lui-là, il mérite la mort. Non, personne ne mérite la mort. Parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Jésus n'est pas venu pour les gens bons. Hein. Est-ce que vous m'entendez? Jésus n'est pas venu pour les gens qui étaient tout beaux, en smoking, en tailleur. Il n'est pas venu pour ces gens-là. Il est venu pour les véritables pécheurs. Donc arrêtons de mettre les croix sur les pécheurs et allons chercher les pécheurs. Oh, dites-moi amen. La quatrième dimension de l'amour nous parle de la hauteur de l'amour. La hauteur de la croix, la hauteur de l'amour. La hauteur nous parle de l'excellence. La hauteur, c'est la seule dimension qui est la quatrième. Pourquoi ? Parce que c'est la seule dimension qui doit d'abord voir les trois premières dimensions s'accomplir. La hauteur nous parle de jusqu'où va aller ton amour pour Dieu, jusqu'où va exceller ton amour en hauteur. Elle va vers le haut. C'est l'amour qui est dirigé vers le Père. C'est l'amour qui est dirigé vers le Fils. C'est l'amour qui est dirigé vers le Saint-Esprit, le Dieu trois fois saint. L'amour, la hauteur de l'amour va parler de jusqu'où tu es capable d'aimer Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais le problème, c'est que pour aimer Dieu, il faut d'abord que les trois premières dimensions, la largeur, c'est-à-dire inclure tout le monde, hein, la longueur, supporter tout le monde, la profondeur, aller chercher tout le monde. Il va d'abord falloir que tu la remplisses. Les trois premières dimensions parlent d'abord de la dimension humaine de l'amour. Et la quatrième part de la dimension verticale, c'est l'est de l'amour. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, nous avons du mal à aimer les frères. à supporter les frères. Dans l'église, les gens se blessent les uns les autres. Dans les groupes, là, les ministères, les départements, les gens se blessent. C'est dans toutes les églises. Parce qu'on est tous différents, avec des bagages, des expériences, des origines, des histoires différentes. Et puis comme on ne comprend pas l'amour de Dieu, alors on a du mal à se supporter les uns les autres. On se blesse les uns les autres. On se critique les uns les autres. Le bras gauche dit au bras droit, tu es moche. Mais c'est toujours le même corps. C'est le corps de Christ. C'est le même corps, c'est pas un autre, c'est le même corps. Mais la main gauche dit à la main droite, dégage, tu es nul. La main droite répond, toi aussi tu es nul. Et puis après on se bat. Qui a mal? Le corps. C'est le corps qui a mal. C'est le corps qui a mal. Et la tête est là, elle voit. La tête regarde, la tête c'est Christ. Est-ce que quelqu'un comprend le projet? Dis Seigneur, aide-nous. Et nous prétendons dire que nous aimons. Voilà ce que la Bible dit, 1 Jean 4, verset 20. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car il ne peut pas aimer son frère qui est là sous ses yeux et il ne saurait aimer Dieu qu'il le voit. Autrement dit, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère que tu vois sous tes yeux et Dieu tu ne le vois pas du tout. Le problème c'est que tu as oublié malheureusement, surtout dans l'église, faites attention, dans le corps de Christ, c'est ça qui est terrible. C'est terrible parce que dans le corps de Christ, on ne se rend même pas compte que quand je suis en train de critiquer tel frère, telle église, tel pasteur, tel frère, telle sœur, je suis en train de critiquer moi-même. C'est le même corps. C'est le corps de Christ. Si quelqu'un prétend aimer Dieu, écoutez ce que Dieu dit. Si tu dis, ah j'aime Dieu, j'aime le Seigneur de tout mon cœur. Et si pendant que tu es en train de lire, tu as quelqu'un dans l'église là, ou dans une autre église, ou tu as quelqu'un même qui n'est pas chrétien, mais que tu es, Dieu dit, tu es un menteur, tu n'aimes pas Dieu. Tu ne peux pas aimer en vertical. Dieu dit, la quatrième dimension, c'est la dimension de l'amour vertical. Tu ne peux pas l'avoir si tu n'as pas d'abord inclus tout le monde. Parce que Dieu, lui, il a inclus tout le monde. Tu ne peux pas dire, j'en ai marre de lui, je ne l'aimerai plus. Non, Dieu dit, tu dois supporter. Supporter, endurer. L'amour est endurant. Ah oui. Et tu dois aimer en profondeur. Et c'est là maintenant que tu peux dire, j'aime Dieu. Si tu ne mets pas en pratique les trois premières dimensions de l'amour, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Dieu lui-même dit, tu es un menteur. Autrement dit, tu te mens à toi-même. Tu penses que tu aimes Dieu, tu n'aimes pas Dieu. Tu aimes toi-même. Ce n'est pas Dieu que tu aimes. Tu te séduis. 1 Jean 3, verset 14. Il lui dit, quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Écoutez, nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Nous aimons nos frères. Nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Mais celui qui n'aime pas se trouve encore dans le royaume de la mort. Celui qui n'aime pas se trouve encore dans le royaume de la mort. Il ne dit pas que celui qui n'aime pas n'est pas né de nouveau. Non, il ne dit pas qu'il n'est pas né de nouveau. Il ne dit pas qu'il n'a pas donné sa vie à Christ. Il dit qu'il est né de nouveau, mais il est encore dans les ténèbres. Il est né de nouveau, mais la vie de Dieu ne peut pas opérer en lui. Il est né de nouveau, c'est vrai, mais son robinet est fermé. Le fleuve, les flots de l'amour ne peuvent même pas couler ni en lui, ni au travers de lui. Il est comme quelqu'un qui est mort. Alors qu'il a l'esprit de vie en lui. Mais l'âme est tellement bousillée que l'âme n'arrive pas à libérer l'amour. Il est comme quelqu'un qui est mort. Alors qu'il a toute la vie de Dieu. Comme quelqu'un qui a toutes les richesses du monde, mais qui est le plus pauvre du monde. Alors qu'il a toutes les richesses de la terre, il est le plus pauvre de la terre. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? 1 Jean 4, verset 8. 1 Jean 4, verset 8, il nous dit, celui qui n'aime pas n'a rien compris de Dieu. Répète avec moi, celui qui n'aime pas, son frère ou sa sœur, celui qui n'aime pas son prochain n'a rien compris de Dieu, car Dieu est amour. Ailleurs, il nous dit, celui qui déteste son frère et sa sœur, ou son prochain, il m'a fait du mal, il m'a fait mal, il m'a fait souffrir. Dieu dit, si pour ça tu le détestes, tu es un meurtrier, tu es un assassin. Ah bon, oui, c'est parce que nous ne comprenons pas la parole de Dieu et la profondeur de la parole. Nous lisons les versets, mais nous ne lisons pas la parole, nous ne méditons pas la parole. Dieu dit, si tu as quelqu'un dans ton cœur aujourd'hui que tu détestes, quel que soit ce qui t'a fait, Dieu dit, j'ai mis en toi l'amour, mon amour, par mon esprit qui est en toi, le Saint-Esprit, Dieu, le Saint-Esprit, le Seigneur, le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit veut juste ouvrir le robinet, mais le Saint-Esprit ne peut pas forcer la porte. Il dit, laisse, accepte, dis, Seigneur, j'ai souffert, j'ai mal, mais j'ai choisi de pardonner, j'ai choisi d'aimer. Je choisis de libérer l'amour que tu as mis en moi. J'accepte. Ah, ça me fait mal, Seigneur. Mais j'accepte de libérer l'amour. J'ai mal, ils m'ont fait trop mal. Tu as le choix. Aimer va te faire souffrir. Mais ne pas aimer va te faire encore plus souffrir. Pourquoi? Parce que toutes les fois que tu aimes, tu sèmes. Toutes les fois que tu aimes, tu sèmes. Toutes les fois que tu manifestes l'amour, tu sèmes. Toutes les fois que tu obéis à la parole, tu sèmes. Quand les gens te détestent, quand tes ennemis te détestent, dans ta famille, au boulot, partout où tu es, les gens t'ont fait mal, ils t'ont fait du tort, c'est vrai. Est-ce que tu peux changer quelque chose? Non, tu ne peux rien y changer. Souvent même ceux qui te haient, ceux qui te maudissent, ils ne vont pas changer d'attitude. Mais Dieu dit, sème l'amour. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu sèmes, personne ne sème et ne récolte forcément là où il a semé, et ne récolte forcément ce qu'il a semé. Parce que généralement, ce que tu sèmes, la loi de la semence et de la récolte, la loi de la compensation, semence et récolte, dit que quand tu as semé quelque chose, tu as semé 5 graines, tu ne récolteras pas 5 graines, tu récolteras beaucoup plus que les 5 graines. Quand tu sèmes l'amour, ne t'attends pas à récolter l'amour chez ces 5 personnes qui sont là, qui te méprisent, qui te haient. Non, tu récolteras l'amour au centuple, en abondance chez l'autre personne. S'il y a 5 personnes qui te détestent, mais que tu sèmes l'amour, que tu obéis à la parole, que tu pardonnes, que tu supportes, que tu endures, ce n'est pas chez eux-là. Eux-là, ils ne vont peut-être pas changer, ce n'est pas grave. Mais tu récolteras une multitude de personnes qui t'aimeront pour ce que tu es. C'est la loi de la semence et de la récolte. Tu sèmes l'amour, tu récolteras l'amour. Mais toutes les fois aussi que tu es en train de semer le manque d'amour, tu récolteras le manque d'amour. Les gens vont te haïr parce que toi tu as haï quelqu'un. Est-ce que quelqu'un comprend? Beaucoup de gens vont te haïr parce que l'univers est régi par des lois. Pas par les désirs de quelqu'un, c'est par des principes spirituels, par des lois. La loi de la semence et de la récolte. Celui qui sème. Voilà pourquoi Dieu dit sème l'amour. Voilà pourquoi Dieu dit sème. Si Dieu te dit sème, il ne te dit pas tellement pourquoi. Mais il faut comprendre les lois derrière. Quand tu mûris, tu comprends que finalement, si je n'avais pas semé, oh là là, j'aurais récolté des catastrophes. Est-ce que quelqu'un me suit? Qui n'aime pas, celui qui n'aime pas, celui qui déteste son frère, c'était un meurtrier. Vous savez que pour tuer quelqu'un, il n'y a pas besoin de prendre un couteau. On peut tuer quelqu'un en le privant d'amour. Tout comme on peut tuer quelqu'un en le privant de nourriture, en le privant d'eau, le privant de boisson. Tu peux tuer quelqu'un en le privant d'amour. Beaucoup d'enfants souffrent aujourd'hui parce qu'ils ont été privés d'amour. Privé de l'amour paternel, privé de l'amour maternel. Jamais un mot d'affection, jamais un mot de tendresse. Toujours des brimades, engueulades, terreur. Papa, maman, terreur. Jamais de valorisation. Et beaucoup souffrent aujourd'hui. Les gens sont blessés aujourd'hui. Blessés. Hey, je connais des pasteurs blessés. Et ils prêchent, les pasteurs, ils entendent des prêches. Mais il est blessé. Femme comme homme, blessé. C'est comme ça. Mais physiquement, il est comme ça. Hein. Mais émotionnellement, dans son âme. Mais il est endommagé. C'est un tas de ruines. Mais il entend de prêcher Jésus. Et c'est les mêmes personnes d'après tu entends demain. Assali, boy, assali, assali, assali. Dans l'église, il va t'insulter. Je t'insulte, je te maudis au nom de Jésus. Ah! Hein? Il est blessé. Il est sous la chair. Il est en train de blesser tout le monde maintenant. Les gens blessés blessent. Hein? Les gens qui ont été rejetés ont deux caractéristiques. Un, parce qu'ils ont été tellement rejetés, parce que manque d'amour, deux choses. Ils se rejettent d'abord eux-mêmes. Ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Et deuxième caractéristique, ils rejettent les autres. Si tu es marié à quelqu'un qui est rejeté, qui est blessé, va te blesser. Oh. Alors quand tu vas épouser quelqu'un, il faut être sûr que le gars est restauré dans son âme. Et né de nouveau, ce n'est pas tout. Il faut qu'il soit restauré. Il faut qu'il soit, son âme doit être transformée, guérie. Sinon, il va te blesser. Ok, vis encore. Est-ce qu'on peut continuer? Dis-moi l'amour de Dieu. Donc quand Paul nous dit, par le Saint-Esprit plutôt nous dit par la bouche de Paul, que l'amour de Dieu soit avec vous tous, il est en train de nous dire simplement, chaque jour, poursuivez l'amour. Chaque jour, 1 Corinthiens 4, verset 1, recherchez l'amour. Recherchez l'amour. Poursuivez l'amour. Poursuivez l'amour. Soyez constamment en quête d'amour. Aspirez à l'amour. Développer l'amour. Libérer l'amour. Rechercher l'amour. Dis-moi Seigneur, aide-moi à rechercher. Aide-moi à poursuivre l'amour de Dieu. Répète, aide-moi à poursuivre l'amour de Dieu. Dans 1 Corinthiens 16, 14, il continue. Il nous dit que l'amour de Dieu inspire, motive. L'amour de Dieu motive, inspire toutes vos actions, tous les actes que vous posez, tout ce que vous entreprenez et donne le ton à tout ce que vous faites parmi vous. Il dit, assure-toi, ça veut dire assure-toi que tout ce que tu fais, que tout ce que tu penses, que tout ce que tu entreprends, que tout ce que tu inities, que même tes paroles, que les choix que tu fais dans la vie, que les décisions que tu poses dans la vie, que les relations, les fréquentations que tu as, tout soit inspiré par l'amour. Que le caractère que tu as soit inspiré par l'amour. Que l'attitude que tu as soit inspirée par l'amour, motivée par l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour doit être, dit Dieu, au début de toute chose. L'amour de Dieu doit être la motivation de toute chose. Ce n'est pas tout de prêcher comme je fais, de parler comme je fais ce matin. Il faut le faire avec amour. Ce n'est pas tout de venir enseigner, de chanter, de servir. Non, il faut le faire avec amour. Il faut le faire en aimant les gens. Il faut le faire en aimant les gens. Dis-moi amen. Il faut le faire en incluant tout le monde, en ne faisant exception de personne. Il faut penser à tout le monde. Il faut inclure tout le monde. Moi, je rêve de ce pays qu'on appelle Congo, un pays où tout le monde va apprendre à s'aimer les uns les autres. Un pays où les gens s'aiment les uns les autres, c'est un pays qui est fort. Un pays où les gens sont patriotes. Où quand les gens pensent pays, ils pensent à l'intérêt collectif. Ils pensent à l'intérêt commun. Ils pensent à la... Oh, vraiment, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Quand l'amour devient un caractère, un état d'esprit, alors tu commences à vivre selon les recommandations de Paul aux Romains. Je termine par ça. Romains 12, verset 14. Le Saint-Esprit nous dit, écoutez, le Saint-Esprit nous dit, Romains 12, 14, bénissez ceux qui vous persécutent. Et puis il dit, bénissez et ne maudissez pas. Il dit, bénissez, parlez bien. Prononcez de bonnes paroles sur ceux qui vous persécutent. Prononcez de bonnes paroles. Dites de bonnes phrases. Dites de bons mots. Prononcez des bons mots. Prononcez des belles phrases. Prononcez des bénédictions sur ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Ne maudissez pas. Parce que c'est la tendance naturelle de tout humain. Vous n'êtes pas comme les autres humains. Vous êtes le peuple de Dieu. Vous êtes les enfants de Dieu. Imitez votre Père. Bénissez et ne maudissez pas. Verset 17. Ne rendez à personne. Ne rendez à personne. Ne rendez à personne. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Est-ce que tu entends cette parole du Saint-Esprit? Ne rends à personne le mal pour le mal. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a fait du mal que tu dois retourner le mal. Non, ne rends pas le mal pour le mal. C'est la tentation de l'homme déchu. Mais celui qui est en Christ, celui qui a reçu le Saint-Esprit, Dieu dit, en toi j'ai mis une puissance, une capacité, une force qui te permet de ne pas rendre le mal pour le mal, mais de rendre le mal par le bien. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Autant que ça dépend de toi, sois en paix avec tous les hommes. Des fois, tu n'as juste pas encore tout fait pour être en paix avec les gens. Tu veux tellement avoir raison que tu as bousillé des relations. Tu voulais tellement avoir raison que tu as cassé des relations. Tu as cassé des opportunités. Parce que ce qui était important, c'était ton opinion, ta position. Tu n'as pas été un cultivateur maximum de paix. Il fallait juste parfois abandonner tes droits, dire seulement j'ai tort alors que tu avais raison. Il fallait laisser aller autant que cela dépend de toi. Sois en paix avec tous les êtres humains. Il y a des cas où tu ne pourras rien faire, mais il y a des moments où tu pourras faire, diminue-toi pour être en paix les uns avec les autres. Verset 19, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère. Ne te venge pas, ne cherche pas à faire ta propre justice, mais laisse agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, dit le Seigneur, à moi la rétribution. Quand Dieu dit ça, ça veut dire qu'il s'en charge, ne fais rien. Parce que toutes les fois que tu veux te faire justice, Dieu ne peut plus te faire justice. Dieu ne fera jamais justice à quelqu'un qui a décidé d'appliquer sa propre justice. Si ton ennemi a faim, ne laisse pas crever. Ton ennemi là, tu en as besoin, nourris-le. Donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, dit la parole de Dieu, dit le Saint-Esprit. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Trop de gens sont vaincus par le mal des autres. Il dit, mais surmonte le mal par le bien. Tu peux dominer le mal en faisant le bien. C'est un choix. N'attends pas d'avoir des émotions. Ah non, je ne sens pas. Tu ne sentiras jamais qu'il faut décider d'aimer. Mais tu décideras d'aimer. Et le reste suivra. Sinon, tu vas haïr les gens. Et tu vas devenir ce que tu n'aurais jamais voulu devenir. Et tu vas devenir le contraire de la nature de ton Père. Dis-moi Amen. Dis-moi Seigneur, aide-moi. Inclinons la tête en signe de révérence envers Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit ce matin? Dieu dit qu'il veut que tu sois conscient de marcher. Tu dois être conscient que Dieu veut que tu marches de manière régulière dans l'amour de Dieu. Dans l'amour de Dieu. Apprends à poursuivre l'amour. Chaque jour, jour après jour, aspire à développer l'amour. Aspire à cultiver l'amour. Aspire à aimer tes ennemis. Aspire à chérir tes ennemis. Aspire. L'amour de Dieu, si grand, si tendre, c'est un amour sans fin. Il est illimité dans le temps, illimité dans l'espace. Il n'a pas de limite. Il ne dit pas « je veux m'arrêter d'aimer ». Il ne dit pas « que je n'aimerai plus ». L'amour de Dieu va au-delà des frontières. Au-delà des frontières de l'Église, l'amour de Dieu s'étend. Il va toucher dans l'enfer les perdus. L'amour de Dieu va chercher les perdus. L'amour de Dieu inclut les peuples, les langues, les ethnies, les tribus, les nationalités. L'amour de Dieu va attraper, va chercher ceux qui sont le plus loin possible. Pourquoi? De les emmener à l'amour de Dieu, de les emmener à la croix de Christ. L'amour de Dieu supporte, il endure. Que l'amour de Dieu soit avec vous tous. Marchez en étant conscience. Vous devez poursuivre l'amour. Recherchez l'amour. Vivez dans l'amour entre les frères et les sœurs. Ne vous battez pas. Ne vous insultez pas. Ne vous calomniez pas. Ne vous critiquez pas. Vous êtes un seul corps, le corps de Christ. La jambe ne peut pas insulter la tête. La tête ne peut pas insulter les doigts. Les doigts ne peuvent pas insulter le genou. Marchez dans l'amour. Supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous. Supportez-vous. Vous êtes capable. J'ai mis cet amour en toi. J'ai mis cet amour en toi. Tu peux le faire. Décide seulement. Accepte. L'amour aimé te fera souffrir, mais aimé va te préserver des déceptions, des trahisons, des revers. Aimé va te rendre capable de supporter l'insupportable. Aimé te rendra capable de supporter les revers, les trahisons, les déceptions de la vie. Aimé te rendra capable de supporter les tragédies, les difficultés de la vie. Décide d'aimer, décide d'aimer. Le Saint-Esprit dit décide d'aimer, c'est ton choix. Décide ce matin. Prie, demande, Seigneur, rends-moi capable. J'accepte, j'accepte. Tu as mis tes capacités en moi. Je veux aimer Dieu, mais avant d'aimer Dieu, je dois aider mon frère, je dois aimer ma soeur, je dois aimer mon prochain. L'amour de Dieu, si fort et si tendre, est un amour sans fin, est un amour qui va extrêmement loin, qui n'a pas de limite. L'amour de Dieu, the love of God, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Merci, merci. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu est manifesté ce matin. L'amour de Dieu, nous voulons dire merci à notre Père et notre Dieu pour cet amour. Libéré dans nos cœurs par le Saint. Si le Saint-Esprit n'était pas là, nous ne serions pas capables d'aimer. Mais parce que le Saint-Esprit est là, nous te supplions. Tel est le chant, l'amour de Dieu. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Seigneur, merci. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu,
l'amour de Dieu.
L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. C'est un amour sans fin. L'amour de Dieu,
l'amour de Dieu.
Te remercions pour l'amour que tu as déversé dans nos cœurs. Nous acceptons cet amour que tu libères en nous. Nous acceptons d'ouvrir les robinets de l'amour. Nous acceptons d'aimer l'amour de Dieu. Nous acceptons de libérer ton amour. Nous te remercions, tendre Père, Seigneur Jésus, d'avoir libéré le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit d'amour en nous. Saint. L'amour de Dieu.
L'amour de Dieu.
Recevons l'amour de Dieu. Bénissons Dieu. C'est parce que Dieu est patient avec nous que nous sommes encore en vie aujourd'hui. C'est parce que Dieu a eu compassion de nous que nous sommes encore là. L'amour,
l'amour de Dieu.
Nous te rendons grâce pour ton amour.
Si Oh,
the love of God
est un amour
illimité, sans fin dans le temps, sans limite, sans limite. L'amour de Dieu, il est si fort et si tendre, il est si profond, il va chercher les pécheurs. Il va chercher en enfer. Il va prendre les sorciers. Il va prendre les méchants. L'amour de Dieu. Il va, il pardonne, il supporte et il endure. Il endure les choses les plus difficiles à endurer, à accepter. Et un amour, l'amour de Dieu. Saint. L'amour de Dieu.